Dossier qui fait beaucoup jaser aujourd'hui, c'est l'histoire d'un père d'un enfant qui a une déficience qui décide de quitter le système scolaire québécois pour celui du Nouveau-Brunswick, jugeant qu'il est mieux adapté, Hélène.
Bien, plus inclusif, en tout cas. On en discute d'ailleurs avec le papa en question, Maxime Beauregard-Dionne, qui est également, ou qui était également jusqu'à tout récemment, commissaire scolaire. Monsieur Beauregard-Dionne, bonjour.
Bonjour, Madame Gravel.
Monsieur Beauregard-Dionne, qu'est-ce que vous souhaitez exactement? Comment vous verriez le système québécois en termes d'inclusion pour les enfants, par exemple, qui ont une déficience intellectuelle, un peu comme votre fille?
Ben, en fait, l'idée principale, comme je l'écris dans ma lettre de démission qui est sur ma page Facebook, qui fait quand même 5 pages, il y a 2 aspects importants à distinguer. Donc, rapidement, le premier qui est la vision de l'éducation inclusive qu'on peut avoir, sur laquelle il y a plusieurs philosophies, plusieurs solutions, et le non-respect de certaines dispositions de la loi qui relève, entre autres de la charte, qui relève la discrimination, sur laquelle j'ai beaucoup moins de à mon avis, il y a beaucoup moins de latitude pour négocier. Sur la vision du système québécois, l'idée, elle est double. La première, c'est que ça agit l'éducation inclusive. Pourquoi c'est la solution qui ressort souvent en premier? Ça agit autant sur le fond, donc pour ces enfants-là. Mais l'éducation inclusive, c'est d'abord et avant tout une philosophie pour tous. C'est quand on lit là-dessus, ce que je fais aussi ma thèse de doctorat là-dessus, ça concerne pas particulièrement les enfants handicapés, mais tous. L'idée, c'est d'éduquer les enfants dans un système à l'image de la société dans laquelle ils vont vivre. Donc, si on les sépare à l'école, faut pas oublier que l'école, c'est souvent l'institution, à part nos parents et la famille, c'est l'institution qui forme nos référents culturels, nos façons de penser. Donc, si on apprend aux jeunes que c'est correct, sous certains prétextes, de sortir certaines personnes de la classe, même si à terme, à court terme, ça peut être plus bénéfique médicalement pour ces jeunes-là, on est dans un système d'éducation où on devrait pencher sur le cognitif, l'apprentissage, et on a beaucoup une approche médical, donc d'avoir une approche Nouveau-Brunswick, on voit les effets, ça fait 30 ans qu'ils ont ça, et surtout, et même la Banque mondiale a publié un rapport là-dessus, l'éducation inclusive coûte moins cher en fonds publics.
Fait que finalement, donc, ça a des meilleurs résultats. Mais ce que vous aimeriez, là, ce que vous souhaiteriez, c'est que finalement, votre fille soit intégrée à un groupe régulier, mais avec de l'aide autour d'elle, c'est bien ça?
Ben, en fait, moi, j'ai toujours bien fait attention, sauf hier où j'ai pas eu le choix de l'évoquer évidemment dans ma lettre, mais j'ai toujours bien fait attention de distinguer les deux. Donc, mon dossier personnel, comme je disais dans la lettre, qui va se poursuivre, sur lequel je mettrai pas trop de commentaires. Et la vision de l'inclusion, qui est un dossier que j'ai soulevé au conseil avec d'autres collègues bien avant que ma fille arrive à l'école. Quand j'ai été élue commissaire, elle avait à peine 2 ans. On a soulevé sous diverses façons. Et après plusieurs années, on comprend, c'est jamais des fins de non-recevoir claires, mais on en parlera plus tard, on verra, mais au bout de 4 ans, on n'a jamais vu. Hier, c'était la première fois en 4 ans où je sentais une intention ou un début de quelque chose. Si j'avais senti un début de volonté auparavant, ma décision politique n'aurait probablement pas été la même.
Mais juste pour le bénéfice de nos auditeurs, là, ce que j'aimerais savoir, dans un monde idéal, qu'est-ce que vous auriez, vous, souhaité avant de penser, par exemple, de vous exiler pour l'éducation de votre fille?
Dans un monde idéal, ça aurait été qu'on puisse commencer au Québec en général à réfléchir à un système inclusif comme le Nouveau-Brunswick pour le bien de tous. Et puis je l'évoque aussi, ma réflexion a cheminé aussi quand j'ai rencontré le ministre Proulx, dans les couloirs du congrès de la Fédération des commissions scolaires à Québec. Et bon, évidemment, je ne m'attendais pas à une réponse détaillée en croisant quelqu'un comme ça dans le corridor, mais à tout le moins à quelque chose qui aurait ressemblé à on travaille à revoir la politique d'adaptation scolaire, alors que sa seule réponse, et c'est ce qu'il m'a dit, ben c'est ils sont juste 100 000. Sous-entendant qu'il y a juste 100 000 élèves là-bas, j'ai trouvé ça un peu vide.
Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est que, selon vous, quel pourrait être le bénéfice pour un enfant, par exemple, qui a une déficience intellectuelle, de se retrouver, et je parle bien pour l'enfant, là, de se retrouver dans un groupe régulier?
Je vais essayer de résumer pour vos auditeurs. C'est une question immensément complexe. Il y a un professeur, Jacques Langevin, qui travaille ça depuis 30 ans. Donc, si j'essaie de résumer 30 ans de recherche en 10 secondes, pour vous répondre, ben c'est ça, même si c'est pas bénéfique sur le plan médical à court terme, c'est qu'ici, on essaye tellement de leur apprendre des mots par cœur, par exemple, qu'à 21 ans, quand ils finissent l'école, ils vont savoir 25 mots par cœur, mais ils sont nullement autonomes, versus les faire vivre dans la société. Et leur apprendre tout l'aspect, tu sais, la mission de l'école québécoise, c'est instruire, socialiser, qualifier. On planche tellement sur l'instruire qu'on leur apprend des mots, mais ils ne savent pas plus lire, ils ne sont pas plus fonctionnels. On serait beaucoup mieux de plancher sur le socialiser, qui, lui, travaille dans un groupe régulier.
Est-ce que ce n'est pas le rôle des parents?
On ne travaille pas le social.
Est-ce que ce n'est pas le rôle des parents? Parce qu'à un moment donné, il y a le rôle de l'école qui est d'éduquer et de former et un peu plus. Mais est-ce que ce n'est pas le rôle des parents, justement, de faire en sorte que leur enfant socialise avec les autres? Par la suite, est-ce que c'est obligatoirement que ça doit commencer sur les bancs d'école?
Les parents ont une grande part, effectivement, mais c'est, tu sais, l'élève passe, mettons, entre 8 heures et 4 heures s'il va au service de garde, donc 8 fois 5, 40 heures par semaine, comme n'importe qui travaille. La majeure partie de sa vie, il la passe à l'école et les liens, peu importe la société dans laquelle on vit, on les crée souvent par l'école ou le travail. Donc, oui, c'est le rôle du parent dans une certaine mesure, mais des occasions dans la société autres que l'école, il n'y en existe pas beaucoup. Et c'est là d'où mon plaidoyer, qui c'est vraiment important. Contrairement à d'autres institutions qui ont un rôle où on peut aider avec plus d'inclusion, l'école, c'est celle qui forme nos schémas de pensée. Donc, il n'y aura jamais, par exemple, de cadre inclusif, d'autres trucs inclusifs si... les gens n'ont pas appris à côtoyer du handicap à l'école parce qu'il y a encore beaucoup de préjugés où on pense que ces gens-là ne sont pas capables d'apprendre.
Là, finalement, ce que je comprends, parce que ma prochaine question, c'était est-ce que vous ne pensez pas qu'une personne, un enfant qui a une déficience intellectuelle va préférer se retrouver, pour toutes sortes de raisons, ne serait-ce qu'une raison de discussion et tout ça, avec des gens qui ont à peu près les mêmes problématiques?
Tout à fait pas. Ça, c'est non, tout au contraire.
Parce que je vous pose la question.
Si je parle de mon expérience personnelle, nous, notre fille cet été, elle était dans un camp de jour de la ville de Sherbrooke, avec un soutien dans un groupe régulier, et c'est le moment où elle a eu le soutien le moins spécialisé, le moment où elle était plus heureuse, au point où elle voulait plus aller au CPE qui offre un service spécialisé avec une éducateur spécialisé.
Parce que moi, je vais vous parler aussi de mon expérience personnelle, parce que j'ai une fille qui a maintenant 23 ans et qui a une déficience intellectuelle. Puis c'est pour ça que votre dossier me touche particulièrement. Au départ, j'ai voulu faire la même chose que vous, c'est-à-dire que je me disais, outre l'aspect social dont je m'occupais, je voulais que l'école soit la plus inclusive possible. C'est à un moment donné, c'est ma fille qui m'a dit « Maman, arrête de pousser. Je suis bien avec mes amis qui ont à peu près les mêmes intérêts puis les mêmes objectifs que moi. » Et encore aujourd'hui, donc 15 ans plus tard, elle est toujours avec ce même groupe d'amis-là. Et elle me dit « Je suis bien. » Et finalement, ce que j'ai compris dans ce cheminement-là, c'est qu'il fallait que j'arrête de penser à ce que je croyais être le mieux pour elle, puis que je me mette à l'écouter.
Bien, ça, c'est un élément important aussi. L'intérêt de l'enfant, évidemment, passe toujours en premier, sauf que ce que j'ai observé comme commissaire, c'est plus souvent qu'autrement, on les classe sur la base de leur diagnostic au lieu de leur intérêt. Et du moins pour la maternelle, pour les autres niveaux, ça peut être autre chose, mais au moins en maternelle, si tout le monde était dans la même classe, d'ailleurs, comme je l'ai dit, il y a un seul programme, il y a probablement une bonne raison. Mmh. Après, on pourrait voir comment l'élève fonctionne dans un groupe régulier. À l'inverse, c'est facile si, par exemple, ma fille est dans un groupe séparé cette année, elle apprend à dire ben, elle a bien fonctionné dans un groupe séparé, mais on n'est pas sûr que dans un groupe régulier, ça marcherait. Donc, pour la maternelle, où on apprend à jouer, où il n'y a pas énormément d'académiques, ça pourrait être une année d'évaluation. Et mon hypothèse, c'est que le ministère l'a voulu comme ça en mettant un seul programme.
Je suis d'accord avec vous, mais c'est à partir du moment où veut, veut pas, on se compare avec des notes, que ça peut devenir problématique. Si on parle de la maternelle, où oui, il y a des jeux éducatifs, mais ça demeure quand même des jeux, c'est plus ludique.
Bien, les notes font partie des. Quand on lit l'avis du Conseil supérieur de l'éducation sur l'éducation inclusive, les notes et les cotes pour les élèves, c'est-à-dire le financement selon le diagnostic, sont parmi les deux problématiques qui empêchent ce changement de paradigme-là au Québec.
Monsieur Maxime Bourgardion, est-ce que votre décision est finale de vous exiler pour l'éducation de votre fille?
Oui, tout à fait. Puis notre expérience cet été, on a eu plus de communication, comme ici l'école ne le savait pas, on a eu plus d'ouverture et de communication avec l'école là-bas qui, en fait, eux étaient contents qu'on inscrive notre fille parce qu'ils étaient entre 6 ou 7 classes de maternelle, parce que oui, on sait 7 classes par niveau là-bas. Et pour eux, ça leur simplifie un problème d'en avoir, d'en ouvrir une 7e, alors qu'ici, on aurait tout fait pour essayer d'éviter. Et ne pas oublier en terminant, l'éducation inclusive, comme ça concerne tout le monde, au Nouveau-Brunswick, il y a 2 critères, classer les élèves, l'âge chronologique et le lieu de résidence. Ça évite aussi les fameux transferts administratifs dont on entend parler chaque année qui font tant jaser les parents.
Monsieur Maxime Beauregard-Dionne, merci beaucoup d'avoir discuté avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Bonne journée.